la carte prépayée, rechargeable jusqu'à 10 millions de francs CFA par mois pour effectuer vos achats en ligne et dans les commerces, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Au Sénégal, une série télévisée, Yaï 2.0, a décidé d'aborder avec audace et sans détour le problème de l'infertilité masculine. Une question délicate que celle de l'infertilité, notamment en Afrique. Quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, l'épouse en est très souvent tenue pour responsable par sa belle-famille, voire par la société. Qu'en est-il dans votre pays? Ce sujet reste-t-il tabou? Pour quelles raisons et avec quelles conséquences? On attend vos témoignages. Vous pouvez encore nous appeler au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. Direction la RDC pour évoquer les divergences entre Mousito et Fayoulou au sein de la coalition Lamouka. Tim, bonjour.
Et bonjour Chantal.
Vous êtes en ligne de Kinshasa. En ligne avec nous, Trésor Kibangula, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste politique à Ebouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Tim, vous avez la parole, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup Chantal. Adolphe Mozito et Martin Fayoulou, tous des leaders de la coalition Lamouka, ont chacun annoncé leur candidature à l'élection présidentielle fin 2023. Ces deux candidats sont issus de la même famille politique, comme nous le savons. Alors, pourquoi se présentent-ils alors tous dès l'élection présidentielle? Et cette décision ne risque-t-elle pas de freiner l'opposition?
Alors, Trésor Kibangula, pourquoi les deux hommes ont-ils chacun décidé de se présenter à la présidentielle au lieu de passer par une primaire, entre guillemets, au sein de la coalition Lamouka, primaire qui aurait permis de les départager?
Je pense qu'il faut tout de suite nuancer leur appartenance à la même famille politique, que ce soit Martin Fayoulou ou Adolphe Mousito, chacun a son propre parti politique. En 2018, avec d'autres leaders de l'opposition, ils avaient créé cette plateforme, la Lamouka, qui avait présenté Martin Fayoulou comme le candidat commun de l'opposition. À l'issue de la présidentielle de fin 2018, la Lamouka a revendiqué la victoire de son candidat, mais c'est Félix Tshisekedi qui a été proclamé vainqueur. Alors, la plateforme électorale, la Lamouka est devenue une sorte de mouvement politique pour revendiquer dans un premier temps la vérité des urnes, refusant alors de reconnaître le président proclamé Félix Tshisekedi. C'est à ces moments-là d'ailleurs qu'on a commencé à voir les premières fissures au sein de la Lamouka, car certains leaders de la plateforme, notamment Moïse Katumbi, avaient décidé de s'inscrire plutôt dans une opposition républicaine. Plus tard, avec Jean-Pierre Bemba, Katumbi rejoindra même l'Union sacrée de la Nation, coalition mise en place autour de Félix Tshisekedi. Même si aujourd'hui, Katumbi ne peut pas vraiment être considéré comme un allié de Tshisekedi. Toujours est-il qu'au sein de la Lamouka, il ne restait donc plus que Adolphe Mousito et Martin Fayoulou. Mais ces tandems n'avaient plus rien d'une coalition en vue des prochaines élections. Pas surprenant, à mon sens, donc, qu'après la désignation de Martin Fayoulou mi-juillet comme candidat à la présidentielle par son parti, il faut le préciser, M. Mousito aussi affiche aujourd'hui ses ambitions présidentielles. Ces derniers précisent d'ailleurs qu'il travaille d'abord sur un projet de société et que ce sera en fonction des programmes politiques que de futures alliances pourraient se faire. Alors, est-ce que ceci va freiner l'opposition? À mon sens, oui et non. Oui, parce que pour un scrutin présidentiel à un tour, des candidatures qui se multiplient du côté de l'opposition feront sans doute les affaires du président sortant. Non, parce que peu importe finalement les nombres des candidats, il suffira d'une majorité même relative de suffrages pour l'emporter. Encore faut-il que ces élections à venir soient transparentes, ce qui n'est pas gagné.
Quelles sont les divergences précisément aujourd'hui entre Martin Fayoulou et Adolphe Mousito?
La principale divergence, c'est le choix de Martin Fayoulou de créer ce qu'on a appelé à un moment donné le bloc patriotique. Ces blocs, on a retrouvé dans ces blocs le FCC, la plateforme de Joseph Kabila. Et pour Mousito, il n'était pas question de s'allier avec des gens qui, hier, avaient en quelque sorte volé la victoire de Lamouka.
Tim, vous avez une autre question à poser à Trésor Kibangula?
Oui, évidemment. Alors, Martin Fayoulou fut candidat Maléré aux dernières élections de 2018. Alors, cette fois-ci, aura-t-il la chance ?
Trésor Kibangula, Martin Fayoulou veut prendre sa revanche, mais en a-t-il les moyens ?
Je pense qu'en 2018, porté par les autres candidats de l'opposition, c'était pour parler des chances. Martin Fayoulou s'était véritablement retrouvé dans les meilleures conditions pour remporter la présidentielle. De la commission électorale et des rapports des observateurs électoraux et l'Église catholique notamment avaient même indiqué qu'à l'époque c'était lui le vrai gagnant. C'est pourquoi même aujourd'hui, M. Fayoulou continue d'ailleurs à se considérer comme le président élu. Mais pour les élections à venir, ce ne sera pas le même contexte au regard des ambitions dont on vient de parler, des ambitions affichées des uns et des autres, et du fait que certains leaders de l'opposition comme Katumbi et Bemba empêchés hier de se présenter pourront cette fois-ci et aussi participer à la course. En tout cas, rien ne les empêche de le faire à ce stade. Il sera donc, de toutes les façons, difficile pour les oppositions face à Tshisekedi d'avoir un candidat commun. Les rapprochements et les discussions ne font que commencer, certes, mais l'issue me paraît déjà prévisible. Il n'y aura très probablement pas un candidat commun de l'opposition face au président sortant.
Trésor Kibangula, je suis désolée de vous interrompre, mais la liaison se détériore à vue d'œil ou à vue d'oreille. Je ne sais pas si je peux employer cette expression. Merci en tout cas, on a bien compris hein, vos explications. Donc ça va être très difficile pour Martin Fayoulou, qui va retenter sa chance à la présidentielle. Mais on aura l'occasion de suivre l'évolution de la situation dans nos journaux, évidemment, sur l'antenne de RFI. Tim, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Bonne journée à Kinshasa. Ça. L'accord sur le nucléaire iranien en passe d'être ressuscité. C'est le sujet qui a retenu l'attention de Clément qui nous appelle de Parakou au Bénin. Bonjour Clément.
Bonjour Clément et Noé de Parakou au Bénin.
Voilà, exactement. En ligne avec nous, Héloïse Fayet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Clément, vous avez la parole, on vous écoute.
Merci beaucoup. Téhéran exige de nouvelles concessions des États-Unis concernant l'accord sur le nucléaire iranien. Aujourd'hui, où en est le programme nucléaire iranien ?
Alors, Héloïse Fayet, on est vraiment entré dans la dernière ligne droite sur la renégociation de cet accord qui date de 2015, qui avait été signé entre d'un côté l'Iran et de l'autre les États-Unis, la France, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Accord dont s'étaient retirés les États-Unis sous la présidence Trump et qui est donc à nouveau en discussion. Donc est-ce que les choses vraiment avancent ou est-ce que les nouvelles concessions exigées par Téhéran des États-Unis risque de faire achopper ces discussions ?
Alors, pour le moment, on n'a jamais été aussi près d'un nouvel accord grâce aux négociations qu'il y a eu début à Vienne. Donc, l'Union européenne qui chapeaute et qui coordonne les négociations a proposé un texte à toutes les parties, toutes les parties à l'accord, donc un texte qui présente les étapes nécessaires à suivre pour revenir au JCPOA. Donc, ce texte a été approuvé par les parties occidentales à l'accord et également la Chine et la Russie. Et donc là, l'Iran a signalé il y a quelques jours que le texte devait encore subir des modifications pour qu'il soit accepté par le gouvernement iranien. Et donc, selon l'Iran, il y a encore effectivement des points à modifier dans ce texte. Et l'Iran demande notamment des garanties politique aux États-Unis, c'est-à-dire que l'Iran demande aux États-Unis à ne pas se retirer de l'accord, même si l'administration américaine change en 2024 et, par exemple, repasse à un président républicain opposé à l'accord sur le nucléaire. Ça apparaît comme le principal point de blocage pour le retour au JCPOA, en plus également de sujets un petit peu plus techniques, notamment sur les inspections des sites nucléaires iraniens par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Alors justement, les relations de Téhéran avec l'AIEA se sont tendues depuis la décision au début de l'année de l'Iran de suspendre ses inspections sur ses sites nucléaires. Là, de ce côté, la République islamique ne semble pas prête à faire des concessions ?
Alors, depuis 2019, effectivement, les relations entre l'AIEA et l'Iran sont assez compliquées. L'Iran a continué son programme d'enrichissement depuis 2019. Là, les stocks d'uranium enrichi, donc, qui servent à fabriquer une bombe nucléaire, sont plus élevés que jamais. Et l'AIEA a de très grandes difficultés à accéder aux sites nucléaires iraniens. Notamment, les inspecteurs sont parfois physiquement empêchés d'aller sur les sites. Et puis, il y a aussi un sujet important concernant les caméras de surveillance qui sont installées par l'AIEA sur certains sites nucléaires iraniens et qui ont été désactivées par l'Iran sur certains sites. Et l'Iran refuse pour le moment de les réactiver tant qu'il n'y a pas d'accord. Et l'Iran demande également la clôture d'une enquête de l'AIEA qui avait été ouverte il y a plusieurs mois sur la détection de matériaux radioactifs suspects.
Mais est-ce que les Iraniens ont relancé leur programme nucléaire au point d'être capables aujourd'hui de produire une bombe nucléaire ?
Alors, c'est la déclaration qu'a faite notamment le directeur de l'Agence iranienne de l'énergie atomique début août. Il a signalé que l'Iran était en capacité technique de produire une bombe atomique, mais que pour l'instant, l'Iran n'en avait absolument pas la volonté politique. Donc là, on est sur un état dit du seuil, c'est-à-dire que voilà, s'il y a une décision politique qui est prise, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, l'Iran pourrait se doter d'une arme atomique, mais il faudrait que cette arme soit vectorisée, c'est-à-dire placée sur un projectile, par exemple un missile balistique ou un missile de croisière. Et ça pourrait prendre encore plusieurs années, peut-être 1 à 2 ans, même si la décision politique de créer le cœur de la bombe est prise.
Merci beaucoup Héloïse Fayet pour ces explications. On va continuer à parler de l'accord sur le nucléaire iranien de manière indirecte, puisque c'est l'espoir qui entoure cet accord, ce possible accord, et le ralentissement de l'économie chinoise font baisser les prix du pétrole. On va en parler avec Bareja Youmsi. Bonjour.
Oui, bonjour Chantal.
Vous êtes expert en pétrole et mines, enseignant-chercheur à l'université de Cape Town en Afrique du Sud. Alors, on a un auditeur qui devait vous poser des questions, professeur, ce matin, mais comme on n'arrive pas à le joindre, c'est moi qui vais vous les poser. En quoi ces phénomènes géopolitiques dont je viens de parler, l'accord sur le nucléaire iranien et la contraction de l'économie chinoise, peuvent avoir un impact sur le prix du pétrole brut ?
Oui, bonjour Chantal. En effet, le prix du pétrole, se détermine généralement sur le principe de l'offre et de la demande. Et le plus souvent, il y a des facteurs catalyseurs qui peuvent impacter directement sur le prix du pétrole brut en l'entraînant soit à la hausse, soit à la baisse. Ces facteurs tels que les guerres, les catastrophes naturelles, les pandémies, les phénomènes géopolitiques, etc. Voyez-vous, nous commençons l'année 2022 avec le prix du baril qui tourne autour de 70$. En mars, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous atteignons le prix le plus élevé du baril, autour de 123$. Et à partir du mois de mai, la tendance est à la baisse, et à la baisse s'observe déjà. Pour s'accélérer ces 3 derniers mois, et enfin s'intensifier en août, pour des raisons évoquées, à savoir le ralentissement de l'économie chinoise et cet espoir sur l'accord nucléaire iranien. Et aussi, nous ne devons pas l'ignorer. On est de moins en moins, voyez-vous, inquiets quant à l'idée d'un alignement de la guerre en Europe. Je pense aussi que le facteur clé qui joue sur la baisse du prix du brut, c'est cet accord iranien qui pourrait avoir lieu.
Alors en deux mots, Bareja Youmsi, est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse des prix de l'essence à la pompe en Afrique ?
Voyez-vous, ça se fera au cas par cas, pays par pays, fonction de leur politique de régulation et de stabilisation des prix de l'essence. Je vais ici juste prendre 2 exemples.
Non, on n'a pas le temps, je suis désolée, je ne peux pas vous laisser prendre 2 exemples parce qu'on a encore un sujet sur l'Afghanistan. Merci beaucoup Bareja Youmsi, on aura l'occasion de revenir sur ce problème de hausse du prix du pétrole. On prend donc la direction de Kaboul. Victor, bonjour, vous nous appelez vous de Dakar.
Bonjour Chantal, oui je vous appelle de Dakar.
Et en ligne avec nous, Sonia Ghezali, correspondante de RFI à Kaboul. Bonjour Sonia.
Bonjour Chantal, bonjour Victor, bonjour à tous.
Alors Victor, que voulez-vous savoir? On vous écoute.
Lundi dernier, le 15 août, les talibans ont fêté le premier anniversaire de leur prise de pouvoir en Afghanistan. On sait que depuis un an, l'économie s'est effondrée, les droits ont été restreints et les systèmes de santé sont défaillants. Donc ma question est, malgré ce tableau sombre, y a-t-il des domaines dans lesquels on a constaté une progression?
Alors Sonia Ghezali, est-ce qu'il existe malgré tout quelques points positifs dans la vie des Afghans depuis le retour des talibans au pouvoir il y a un an?
Alors oui, il y a deux points auxquels je pense, et c'est surtout le premier point, c'est la sécurité, parce que évidemment, puisque les talibans qui composaient une partie du conflit ne sont plus dans le conflit, il n'y a plus d'attentats, il n'y a plus de guerre menée entre les talibans et ce qui fut l'ancien gouvernement afghan. Donc sur le plan de la sécurité, ça s'est nettement amélioré.
Mais il y a les attentats commis par l'État islamique maintenant.
Exactement, et pas seulement d'ailleurs l'État islamique, il y a des attentats qui sont toujours menés, on l'a vu hier avec cet attentat contre une mosquée, il y a des attentats qui touchent surtout, qui visent la communauté chiite, mais aussi les sikhs, et toutes les minorités religieuses qui sont considérées comme étant hérétiques et qui sont donc revendiquées par le groupe État islamique en Afghanistan. Il y a aussi une rébellion qui est menée par le fils de l'ancien commandant Massoud, qui mène cette rébellion contre le régime talibans, et donc il y a toujours des heurts qui se produisent, notamment dans le Panjshir, qui est le berceau vraiment tadjik, où le commandant Massoud en fait avait toutes ses troupes et tous ses soutiens. Mais on peut quand même dire que c'est vrai que sur un plan général, en Afghanistan, la sécurité va beaucoup mieux. Et on a discuté notamment avec des chefs d'entreprise qui nous disaient que la vie avait changé pour eux. Les chefs d'entreprise étaient visés par des kidnappings. Ils ne pouvaient pas circuler sans garde du corps. Ils ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l'école sans garde du corps et dans des voitures qui n'étaient pas blindées, parce qu'il y avait des réseaux criminels qui étaient par ailleurs affiliés aussi aux talibans, qui visaient toutes les personnes qui étaient riches, qui avaient de l'argent. Et beaucoup de chefs d'entreprise, d'ailleurs, n'avaient pas leur famille en Afghanistan, mais avaient leurs femmes et leurs enfants qui vivaient dans les pays voisins, en Turquie, à Dubaï ou ailleurs. Et donc ça a changé, puisqu'il n'y a plus de criminalité de cette ampleur. Il y en a toujours une, mais pas de cette ampleur. L'autre point qu'il faut aussi évoquer, c'est la corruption. La corruption était endémique sous l'ancien gouvernement, sous la République islamique d'Afghanistan. Aujourd'hui, cette corruption n'existe plus, elle n'est plus du tout de cette même ampleur. Et là, pareil, un chef d'entreprise qui exporte et qui importe de la nourriture, notamment de l'étranger, nous disait que sous l'ancien gouvernement, il devait donner l'équivalent, 200 000 afghanis environ pour chaque camion de vivres qui passait la frontière. Et c'était du bakchich. Et aujourd'hui, il nous dit qu'il donne cet argent à l'État, en fait, au régime taliban. Donc cet argent rentre dans les caisses de l'État et tout est suivi, tous les produits ont un code-barre, tout est tarifé en fonction d'une grille tarifaire. Et donc ça, c'est considérable. Ce sont les deux changements majeurs qui sont positifs, on peut dire.
Mais selon les organisations humanitaires, 95% de la population afghane ne mange pas à sa faim. Est-ce que les pays voisins de l'Afghanistan et l'Europe agissent pour aider la population? Est-ce qu'ils pourraient lever leurs sanctions, comme le demandent les ONG? Brièvement, Sonia.
Alors, encore, il y a une aide humanitaire qui est donnée. Tous les pays, les pays étrangers donnent une aide humanitaire à l'Afghanistan. Donc, elle n'est pas donnée directement au régime taliban, mais elle est donnée à des ONG locales qui distribuent de la nourriture, qui distribuent de l'argent aux populations qui sont dans le besoin. En revanche, ce qui a été arrêté avec le régime taliban à cause des sanctions internationales, c'est toute l'aide au développement. Donc, il n'y a aucun argent qui entre dans les caisses de l'État ou qui va aux ONG qui agissent dans le développement, c'est-à-dire la reconstruction de routes, la construction d'hôpitaux. Donc tout ce qui est de l'ordre du développement ne se produit plus en Afghanistan et c'est ce qui est difficile puisqu'il n'y a que de l'aide d'urgence qui arrive.
Merci beaucoup Sonia, à bientôt sur l'antenne.